Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qui est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Non mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est la
crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y parle pas, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation de l'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues pas orange,
hein? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
Voilà. 30 ans après, c'est encore le même conseil social, et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. Tu dis tant que je ne connais pas. C'est quand même curieux, non? Sans quoi, j'ai dit, jamais il ne faut qu'en panne.
Aujourd'hui, mercredi 11 mai, c'est la Saint-Co-Belligérant. Saint-Co-Belligérant est le saint patron de ceux qui se battent pas contre les autres, mais qui se battent avec les uns. Eh ouais, c'est subtil. La guerre est une chose atroce, un combat bestial, au cours duquel les hommes se jettent les uns contre les autres pour s'entretuer sauvagement. Les balles éclatent, les boîtes crâniennes, les missiles déchiquettent indistinctement vieillards et nouveau-nés, les bombes à fragmentation détruisent des quartiers entiers, des soudards décomplexés dans les ruines, tortures, viols et mutiles. Dès lors, on comprend bien que ceux qui font la guerre sont des barbares et que, par définition, le pays de Bernard-Henri Lévy, de Lagardère et Dassault, n'a rien à faire. Rien à voir avec ces destructions d'un autre âge et ces rivières de sang qui font honte à l'humanité. Ah ouais, surtout si l'ennemi possède l'arme nucléaire. Non, seul un ogre sans scrupules, seul un ours belliqueux et vorace, seul un cosaque ivre de sang, seul un tyran aux moustaches épaisses, seul un monstre froid et calculateur peut, invoquant cinq belligérants, réunir ces hordes primitives de Tatars, d'Ingouches, de Mongols, de Bashkirs, de Tchouvaches et de Tcherkès, de Tchétchènes et d'Abkhazes, de Yakoutes, d'Azéries, d'Ouzbeks, de kalmouks et de kazakhs. Seul un dictateur féroce entouré d'oligarques peut décider de faire dévaler sur notre belle Europe démocratique ses légions et ses clans d'assassins psychopathes, après le passage desquels l'herbe verte de l'OTAN et de l'Union européenne, où paissent paisiblement les peuples indo-européens, ne repousse pas. Face à cette barbarie en marche vers notre Occident, se dresse, telle Sainte Geneviève sur le périph', face à Attila, tel le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg, au-devant du grand vizir, telle la 14e division SS, dite Galicie, résistant courageusement à l'avancée stalinienne, se dresse donc le valeureux bataillon Azov. Composé de nazis tellement modérés qu'on ne saurait jamais trop leur tresser de laurier. Eh, ils sont invités sur BFM quand même, hein ? Et nous laisserions seuls ces héros modernes aux tatouages si joliment dessinés, sur leur peau si blanche, la même peau blanche que la nôtre. Nous abandonnerions à leur funeste sort ces amis du monde libre qui, à un contre-sang, dans les souterrains de notre civilisation, une zone industrielle, combattent le danger djihado-communiste ? Non, il est tout naturel, et ce, sans canoniser ostensiblement cinq obligérants, et dans un pur et simple esprit de fair-play, de tout faire pour que dure la guerre le plus longtemps possible. Voilà pourquoi notre camp, sans se salir les mains et sans éclaboussure, promeut une guerre par procuration, à vendre jusqu'au dernier Ukrainien, par la livraison à domicile de notre savoir-faire, garantie 100% démocratique par Frau Ursula von der Leyen. De la même manière, à une autre échelle, plus petite certes, il convient de stopper l'avancée des hordes islamo-gauchistes qui dévalent sur le paysage électoral français, jusque-là tranquillement géré par l'alliance objective entre la bourgeoisie française et ses propres nazis modérés, lesquels garantissent la poursuite du grand projet ! La co-belligérance, la voici, se sont mobilisés par un tyran chaviste, un ogre sans valeur, un dictateur en puissance, des hordes d'insoumis, de communistes, de trotskistes, de socialistes, d'écologistes, de poutiniens antisémites, de racistes anti-blancs, d'ennemis de la laïcité, d'auditeurs de Radio Campus, de wokistes par milliers qui prétendent nous déloger de notre zone de confort. Et dans les souterrains de Mackinstall, redoutant l'offensive, ce bataillon héroïque, une petite minorité, oui, une petite minorité qui défend ses valeurs, nos valeurs. Côté en bourse, évidemment. Aujourd'hui, mercredi 11 mai 2022, le soleil s'est levé. On my mob, it was super. Il va se coucher dans son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche, un peu, de Radio Campus et sur campuslille.com. Ce soir, nous diffusons un podcast, autant dire une balado-diffusion, réalisé par Hugo Paglietta. Hugo Paglietta décortique le fascisme, non pas par fascination morbide pour les pires tendances de notre monde, mais pour regarder en face le danger. Il est ici accompagné de Marwan Mohamed, sociologue, sur le thème de l'islamophobie. Islamophobie, racisme institutionnel, pardon, et locomotive du néofascisme. C'est l'heure de le mettre.
Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays. Dociles. avait des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Il nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi, emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers, militants acharnés de ce rêve qui bouge, qui serait un beau jour de gauche bien rangé. Tricolore et tranquille, la zone, c'était rouge. La noirceur des blousons nous faisait des étés sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques. Nous déroulions nos chaînes, essayant de décrocher la montée de l'amour, de la paix et de la musique. Quand le car avalait sa ration de 6 heures, de mains brûlées de silicose et de gros rouge, nous rentrions vidés dans nos cuisines seules. Un sourire, un café, la douce, rien ne bouge. La radio tapinait à l'étage inférieur. On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour. Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs. Nos mamans affairées voyaient baisser le jour. Oh mon amour, emporte-moi, emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. Oh mon amour, emporte-moi, emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays possibles.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir le sociologue Marwan Mohamed pour aborder une question qui me semble fondamentale pour quiconque souhaite comprendre véritablement la renaissance de l'idéologie fasciste et des projets fascistes à une échelle de masse en Europe de l'Ouest notamment, à savoir la question de l'islamophobie. Bonjour Marwan.
Bonjour.
Alors si le fascisme historique, celui des années 20 et 30, avait partie liée, on le sait, étroitement avec l'antisémitisme, notamment dans ses variétés allemandes et françaises, les fascismes allemands et français, l'islamophobie est au cœur des néofascismes actuels, en particulier en France, mais aussi en Italie, en Allemagne ou encore en Angleterre. Évidemment, l'antisémitisme n'a pas disparu pour autant. On peut même noter une recrudescence des discours antisémites, notamment à travers des thèses conspirationnistes qui se développent et se diffusent à la faveur de la crise sanitaire et plus largement de la crise sociale et politique, avec des acteurs spécifiques qui jouent un rôle central dans cette diffusion et qui en général recyclent d'ailleurs et répètent les vieilles théories antisémites. mais ces discours antisémites prennent soin en général de se dissimuler derrière des expressions caractéristiques ou des noms propres, Soros par exemple. Ils ne sont pas au cœur de l'agenda des élites politiques et médiatiques et ils occupent une place nettement moins centrale que l'islamophobie dans la propagande quotidienne de la plupart des organisations ou des idéologues d'extrême droite. Une partie de l'extrême droite, d'ailleurs, Marine Le Pen en tête, mais Éric Zemmour aussi, va jusqu'à instrumentaliser la cause de la défense des juifs et des juives en prétendant que seule une politique visant à mater l'islam et les musulmans et les musulmanes, une politique qui fermerait les frontières également, permettrait de faire face à l'antisémitisme contemporain. Puisqu'aujourd'hui, l'antisémitisme en Europe serait presque intégralement le fait des musulmans et des musulmanes. Être islamophobe serait donc en quelque sorte la seule manière de combattre l'antisémitisme. Et dans le même temps, Zemmour continue de défendre le régime de Vichy et de propager des thèses négationnistes au sens où elle nie le rôle spécifique et autonome de cette dictature dans la déportation des Juifs et des Juifs de France durant la Seconde Guerre mondiale, en prétendant même que Pétain et Vichy auraient permis de sauver la plupart des Juifs. Avec Marwan Mohamed, qui a notamment publié avec Abdelali Ajat le livre fondamental intitulé « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman », je voudrais qu'on revienne sur une série de questions qui sont au cœur du débat sur l'islamophobie, mais en déplaçant l'attention vers une série d'acteurs qui ne sont pas à proprement parler fascistes, mais qui ont joué ou qui jouent un rôle important dans le processus de fascisation, notamment du discours public. Un rôle important parce que ces acteurs politiques ou médiatiques ou intellectuels n'ont cessé de contribuer à la diabolisation de l'islam et des musulmans et des musulmanes, autrement dit à leur essentialisation et à leur stigmatisation, faisant d'eux une sorte d'ennemi intérieur à la fois omniprésent et insaisissable. C'est très important pour la compréhension du fascisme de faire ce travail parce que pour se développer jusqu'à prétendre conquérir le pouvoir politique, les fascistes d'hier ou d'aujourd'hui ont toujours bénéficié de complicités directes ou indirectes, politiques, économiques ou intellectuelles. Ils ne parviennent pas à vaincre par la seule force de séduction de leurs idées, ils ont besoin que des acteurs non proprement fascistes rendent leurs idées acceptables et leurs projets désirables. Il y a même un texte très court et peu connu de la romancière africaine-américaine Toni Morrison qui s'intitule « Racism and Fascism » où elle dit en somme que le fascisme commence avec la construction d'une figure de l'ennemi intérieur, à la fois, dit-elle, comme point de focalisation et vecteur de diversion. Si on suit cette indication, on voit à quel point il est crucial de comprendre l'islamophobie pour comprendre et combattre le néofascisme contemporain. Alors Marwan, peut-être on peut commencer par une question de trajectoire. Comment t'en es venu à travailler sur l'islamophobie ? Parce qu'au départ, tu as travaillé en tant que sociologue sur les questions des bandes de jeunes dans une perspective d'enquête ethnographique qui permettait de mieux comprendre les conditions sociales de formation de ces bandes et de mieux saisir leur logique sociale. Sur ces questions, tu as d'ailleurs publié un livre, tu en as dirigé deux autres. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit à te déplacer à un moment donné sur la question de l'islamophobie, notamment à travers ce livre coécrit avec Abdelali Ajat et quelques autres travaux que tu as publiés ensuite ?
Merci pour l'invitation, Hugo. Alors, pour répondre à ta question, on en vient à travailler sur l'islamophobie avec Abdelali Ajat, d'abord dans une discussion. Ça démarre d'une discussion, d'une réflexion partagée et d'un constat commun qui est que la notion d'islamophobie était extrêmement contestée dans le débat public, était extrêmement discutée. La réalité même de l'islamophobie était soit affirmée, soit contredite. Mais que au début des années 2010, fin des années 2000, au début des années 2010, finalement, on a des débats qui se succèdent où la question de la présence musulmane est mise au cœur de l'actualité. La présence musulmane, elle est attaquée, délégitimée sous différentes formes. Et on se rend compte que les sciences sociales, les sciences humaines de manière générale, n'ont pas grand-chose à dire, non pas sur la question de la présence de l'islam. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont spécialisés sur la présence musulmane, sur les pratiques sociales des personnes musulmanes, de leurs institutions, des rapports entre les pouvoirs publics et la minorité musulmane. Mais on avait très peu de travaux universitaires ou d'intérêt universitaire, juste un intérêt universitaire, pour aborder la question de l'islamophobie avec les outils des sciences sociales. Et c'est ça qui, c'est ce constat-là qui nous frappe à ce moment-là, à un moment où, sûrement dans notre entourage personnel, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent de l'islam et qui se plaignent du climat, qui en souffrent. Et donc ce décalage entre la souffrance de beaucoup de musulmans qui nous entourent une réalité qui nous touche personnellement, et de l'autre côté un champ académique, un champ universitaire qui ne dit pas grand-chose et qui ne développe pas grand-chose en termes de travaux scientifiques, de résultats et d'analyses robustes et puis empiriquement fondées surtout sur cette question-là. C'est ça qui nous a poussé d'abord à ouvrir un espace dans lequel pourraient être présentés des travaux, des recherches, des textes autour du rejet de l'islam de manière générale, quels que soient les termes que les collègues emploient, hein, dans une perspective pluridisciplinaire. Et donc, ça s'est traduit par ce séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales qu'on a animé tous les deux pendant 2 ans. Et puis après, on a proposé à Houda Assal de l'animer avec nous. Et à partir de ce séminaire, il y a un certain nombre d'enquêtes, de recherches qu'on a démarrées, Abdelali et moi. Et puis avec cette idée de publier à la fois un ouvrage qui soit à la fois qui ait une dimension de synthèse, ouvrage de synthèse de l'état des savoirs, pas seulement la littérature francophone, puisqu'elle est très, 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 très limitée, mais la littérature internationale de manière générale, mais également de pouvoir présenter un certain nombre de données, d'analyses tirées de nos propres recherches. Donc il y a cette publication en 2013 de ce livre-là, qui a été accueilli de manière assez paradoxale, c'est-à-dire une presse pré-généraliste qui s'en saisit en France, mais plutôt correctement et de manière assez qualitative, et un milieu académique, un champ académique global qui ne s'en saisit pas ou peu. Alors je parle vraiment des institutions, des chercheurs établis. On a eu finalement très peu d'échanges, très peu d'invitations à présenter ce travail-là dans le champ académique, notamment dans le champ académique des recherches sur l'islam. Ce qui nous a quand même pas mal interrogés, on n'a pas toutes les réponses, mais ça nous a quand même frappés. Et il n'en demeure pas moins que le champ militant s'en saisit, débat public s'en saisit, et on est partie prenante à partir d'un certain moment de ce débat-là. Donc voilà comment est-ce qu'on vient à travailler sur ce sujet-là, à publier ce livre qui va être réédité normalement à la rentrée prochaine avec une version augmentée.
Et comment tu vois l'évolution justement des perceptions de l'islamophobie ? Parce que ça nous amène déjà assez loin, mais dans la période récente, on a vu des organisations qui luttaient contre l'islamophobie, qui faisaient de la défense notamment des musulmans et des musulmanes, ou qui recensaient des actes islamophobes comme le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, mais également une organisation militante qui s'appelait la Coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui ont été dissoutes, sur notamment des motifs assez vaporeux, disons, et où on leur reprochait notamment de considérer que l'État avait un rôle dans la production et la perpétuation de l'islamophobie. Comment tu vois l'évolution à presque 10 ans entre le moment où peut-être avec Abdelali vous avez commencé à travailler sur cette question de l'islamophobie et aujourd'hui, à la fois côté, je dirais, médias et pouvoir politique, quoi. Alors peut-être aussi du côté militant, je ne sais pas.
Alors, d'abord dans le champ académique, on est passé à un moment où il y avait beaucoup de journalistes, de médias et de professionnels de l'information qui se censuraient et qui n'utilisaient pas la notion d'islamophobie parce qu'ils reprenaient à leur compte la thèse défendue par Pascal Bruckner, mais également Caroline Fourest ou Fiametta Venner qui ont affirmé que le mot islamophobie avait été inventé par les mollahs iraniens au début des années 80 pour faire taire toute critique de l'islam. Un simple travail, et on n'est pas les premiers à avoir montré que c'était faux, c'était un mensonge, que le terme avait été inventé par des administrateurs coloniaux au début du XXe siècle, et que c'est une notion qui avait eu une trajectoire avec une forte utilisation au début du XXe siècle, une émergence, et puis une disparition progressive, et puis un retour dans les années 70-80, d'abord en Grande-Bretagne, et puis ensuite dans le contexte, plus largement dans le contexte francophone. Cette notion-là, elle a été discutée comme toute notion, comme tout concept doit être discuté, quels que soient les pays, mais aucun espace politique et aucun espace médiatique ne rejette autant la notion d'islamophobie que l'espace public français. Voilà. Avec des arguments qui sont des arguments très faibles, mais suffisants pour être répétés, validés, légitimés par toute une série d'acteurs médiatiques. Alors je reviens, moi, à cette question de la notion. La parution de notre ouvrage, qui est quand même bien charpenté académiquement, qui s'appuie sur un cadre théorique, qui repose essentiellement sur la littérature scientifique et également qui utilise les données en les mettant à distance, les données en une approche critique des données, mais quand même en présentant que le fait qu'on ait quand même un certain nombre de données qui matérialisent la réalité de l'islamophobie, au moins ces dimensions de discriminatoires et tout ce qui est de l'ordre des atteintes aux personnes. Bon. Les atteintes aux biens, des mosquées, les dégradations. Bon. Et donc, on a la première réaction, le premier effet, c'est que, par exemple, une institution publique comme la CNCDH, c'est-à-dire la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une institution publique, s'en saisit et change de position, par exemple, en disant « Bon, bah voilà, on s'est appuyé, on a rejeté le mot islamophobie parce qu'en s'appuyant sur des arguments qui nous étaient présentés, aujourd'hui, on va l'utiliser et voilà comment on va le définir. » Je me rappelle d'un édito du Monde qui, pareil, qui a ses prescripteurs, qui finalement légitime la notion. À Libé aussi, on commence à l'utiliser davantage et dans d'autres médias. Dans le champ universitaire, je vois bien que beaucoup d'étudiants, de doctorants, de jeunes chercheurs s'en saisissent beaucoup plus facilement que des chercheurs plus installés, plus établis. On a même eu un certain nombre de textes qui ont été publiés par des chercheurs qu'on peut classer comme des gens qui sont à gauche essentiellement, avec des arguments extrêmement pauvres et qui ont critiqué l'usage de la notion d'islamophobie. Je pense à des gens que j'apprécie par ailleurs, Gérard Mauger ou d'autres, où on n'a pas compris en fait comment est-ce que une critique qui se veut scientifique d'un concept ne s'appuie pas sur la littérature scientifique, mais seulement sur des arguments vaporeux qu'on retrouve sur Wikipédia ou dans la sphère médiatique. Ça, pour moi, ça traduit une gêne vis-à-vis de cette notion, et une gêne qui traverse toutes les organisations de gauche, en fait, si on veut résumer les choses. Toutes les grandes organisations, toutes les institutions de gauche, que ce soit les associations antiracistes, les syndicats ou les partis, sont divisées sur la question de l'usage de cette notion-là. Bon. Voilà, par rapport au premier point, ça a été que ça a bougé, ça a participé au fait, on n'est pas tout seul, que ça bouge dans l'usage de la notion et dans la légitimation de la notion. Mais ça a alimenté aussi un backlash, forcément, et en fait, les critiques de la notion d'islamophobie, qui sont en fait les critiques de l'idée même du fait de se mobiliser sur la question de l'islamophobie, et qui sont des critiques du fait de considérer l'islamité, réelle ou présumée, comme un motif de rejet. Et donc de les prendre en charge politiquement, parce que derrière la critique de la notion, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu, c'est la question de la présence, c'est la légitimité de la présence des personnes considérées comme et présumées musulmanes. Donc dans le champ académique, ça bouge, et on le voit par exemple sur les sites comme thèse.fr ou sur Cairn ou sur des grandes bases de données, on a une augmentation du nombre d'articles qui utilisent cette notion-là. On l'a avec Lali, il a fait une analyse un peu de l'usage de cette notion-là dans la presse, et on voit qu'on passe à une phase quand même de reconnaissance malgré les critiques qui redoublent. On a un certain nombre d'acteurs qui s'en servent, et donc on est dans cette situation assez parallèle, un peu bizarre, où cohabitent un usage qui se normalise et un rejet qui s'est normalisé également. Et selon la manière dont on se positionne politiquement, selon le type d'inscription, le type de média qu'on va... la source de l'information qui est la nôtre, on va être plus ou moins sensible à tel ou tel argument. Mais je répète, le débat sur la notion et le concept d'islamophobie doit avoir lieu. Voilà. Et je pense que c'est un point qui est important à souligner. Et les critiques de cette notion doivent être prises en compte. Les critiques fondées, je veux dire, les critiques rationnelles et basées sur des arguments.
Tu as parlé des origines du mot islamophobie, de la notion qui renvoie au colonialisme français en bonne partie, ou en tout cas au contexte colonial. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les origines de l'islamophobie contemporaine, peut-être à partir des années 80, à voir, c'est à toi de nous le dire. On a évoqué assez souvent les réactions occidentales à la révolution islamique en Iran. On pourrait évoquer les discours de ministres socialistes au moment des grandes grèves de travailleurs immigrés dans l'industrie automobile au début des années 80, des discours de Pierre Monroy, Gaston Defer, Auroux, pointant la présence d'agitateurs chiites dans les usines. Bon, on pourrait évoquer évidemment aussi tout ce qu'on a pu appeler avec des guillemets du coup les affaires du voile à Creil dès 89 et ensuite. Voilà, comment on fait la généalogie d'une certaine manière, ou qu'est-ce qu'on pourrait retracer comme généalogie de l'islamophobie contemporaine en France au cours des dernières décennies?
tout dépend de la question qu'on pose et de la temporalité qui nous intéresse. Si on veut travailler vraiment sur le temps long, on pourrait faire naître le rejet de l'islam ou une espèce d'islamophobie à l'émergence de l'islam et à l'expansion géographique du monde musulman. Et là, on pourrait faire même une espèce d'analyse parallèle dans l'Occident chrétien, des représentations à la fois du judaïsme, de l'Orient juif et de l'Orient musulman. Et on pourrait retrouver, comme l'a fait notre collègue historien Reza Zia Ebrahimi, qui a sorti un livre remarquable aux éditions d'Amsterdam, et qui fait justement l'histoire croisée de l'antisémitisme et de l'islamophobie en Occident, et qui montre que les histoires ne sont pas parallèles. C'est des phénomènes qui empruntent des trajectoires historiques très différentes, qui ont abouti à des formes et à des manifestations dans la vie sociale très très différentes, mais qui ont quand même des fondements assez proches si on regarde dans l'histoire et dans le temps long, notamment la question de l'islamophobie chrétienne et de l'antisémitisme chrétien, vu comme concurrence entre cultes, entre civilisations, entre religions, une concurrence, une peur et un rejet qui vont alimenter la production de stéréotypes négatifs, de préjugés, mais également de campagnes, de guerres et d'oppression.
Et un moment d'émergence commun, si je me souviens bien du livre, notamment dans l'Espagne de la Reconquista, où on va considérer que ceux qui se sont convertis mais qui ont des origines juives ou musulmanes ne sont pas de sang pur. Notamment, l'auteur fait remonter l'origine même du racisme à ce moment historique-là.
C'est ça. Alors, d'autres auteurs remontent un peu plus loin dans l'histoire. Mais c'est vrai que l'intérêt d'un retour vers cette période de l'Andalousie et du sud de l'Espagne est intéressant parce qu'on a une cohabitation assez pacifiée et même très constructive des populations juives et musulmanes dans la même région, qui brille aussi au niveau des sciences, des arts et de la culture qui sont des lieux extrêmement attractifs au niveau de la production de la culture, de la pensée, etc. Et qui vont faire l'objet de modes de racialisation, hein, c'est-à-dire de construction de l'autre à travers une espèce de nature, d'une essence. Ils vont faire l'objet de processus d'altérisation, de naturalisation, ce qu'on appelle de racialisation, qui repose sur la même idée de pureté de sang, de pureté civilisationnelle, et cette idée-là continue à perdurer aujourd'hui, elle continue à exister aujourd'hui, et elle prend d'autres formes, cette idée de pureté, et cette idée de centralité anthropologique et de hiérarchie. Ça, on a sous des formes différentes, encore aujourd'hui, le racisme repose toujours sur ces formes de hiérarchie. Mais c'est vrai qu'on a ce moment où la représentation, le discours visant les juifs et les musulmans vont emprunter des chemins assez similaires avant de se reséparer à travers l'histoire. Mais pour revenir à ta question, nous, on s'est beaucoup intéressé à la période contemporaine. On s'est beaucoup intéressé à l'espace public français et bien sûr que la question de l'islam n'est pas posée dans le débat public français à partir de la fin des années 70 et début des années 80. On pourrait remonter en amont, les collègues historiens l'ont fait. Mais les formes que vont prendre les discours, la mise en image et le traitement politique de la présence musulmane en France, notamment en France métropolitaine, elles vont prendre un tournant particulier et une forme particulière qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et cette forme-là, nous, on l'associe à la question des grèves ouvrières du début des années 80. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'enjeu qui se pose, c'est quand même un enjeu de transformation économique extrêmement important, une transformation politique importante. On est dans une gauche qui vient d'arriver au pouvoir, mais qui emprunte le tournant néolibéral de la rigueur et qui, du coup, à ce titre-là, cesse de défendre les intérêts des ouvriers pour davantage défendre les intérêts d'une partie du patronat, des élites économiques, mais une partie des élites administratives aussi. Et la question de l'utilité sociale, pour la France d'un gros bataillon de travailleurs immigrés, notamment musulmans, va se poser. Et c'est ça la question fondamentale. C'est en ça que ça nous intéresse, parce que derrière l'émergence de ces discours, il y a la question fondamentale de qu'est-ce qu'on en fait, vu que leur utilité dans notre contexte actuel est pas du tout se pose pas dans les mêmes termes que 3 décennies auparavant, 4 décennies auparavant. Donc il y a ça tout d'abord. Deuxièmement, on a des populations musulmanes qui sont parmi les premières à se positionner sur des luttes et des revendications d'égalité. Et donc, on a des populations qui disent on veut être traité de la même manière, on veut accéder, on veut avoir le droit de lutter au niveau social. Les luttes pour l'immigration, elles datent d'avant le début des années 80. Mais là, on a l'articulation dans un même lieu de ces revendications d'égalité, de ces luttes sociales, mais également de l'enjeu de la présence immigrée et de sa légitimité. Bon. Parce que les besoins de l'industrie ne sont plus les mêmes, parce qu'il y a une période de crise économique, et parce que beaucoup d'ouvriers français blancs rentrent en concurrence avec des ouvriers français non blancs, mais également avec des travailleurs étrangers, travailleurs immigrés. Et donc, c'est en ça que ça nous intéresse, et puis surtout sur la forme du discours. Sur la forme du discours, on a non pas la droite ou l'extrême droite. Le discours d'extrême droite au début des années 80 est focalisé, est un discours de nature xénophobe. Nationaliste. C'est-à-dire qu'il repose essentiellement sur l'opposition entre nationaux et étrangers. C'est d'abord les Français qu'il faut défendre contre les étrangers, contre les immigrés. Donc ce discours-là, il est central, il est majoritaire. Bien sûr, la référence à la religion existe, mais elle est quand même très, très, très secondaire, très marginale dans le discours d'extrême droite. Alors que là, on a des gens qui sont de gauche, de la gauche à la fois communiste et de la gauche socialiste, qui sont au pouvoir, qui sont au gouvernement, qui sont aux manettes. Et ils développent toute une série de discours, de mythes et de mensonges qui reposent au fond sur l'idée qu'il y aurait une espèce de cinquième colonne ou d'ennemi intérieur, alors dans les usines. Et cet ennemi intérieur, c'est très intéressant, il est désigné comme intégriste. Donc on a cette notion-là qui commence à arriver. Il y a des manipulations intégristes, des acteurs, une arrière-scène. Voilà, l'idée de l'arrière-scène masculine, islamiste, intégriste. Elle se pose là par le haut du panier du gouvernement, par les principaux ministres, par le Premier ministre. Donc c'est le gouvernement qui parle. Et c'est le gouvernement qui dit, il y a un ennemi intérieur, là il est dans les usines, et cet ennemi intérieur c'est une arrière-scène islamiste qui veut manipuler, qui veut s'en prendre à nos valeurs, qui veut s'en prendre à nos intérêts économiques, qui veut s'en prendre à notre travail, quelque part c'est ce qui est dit, et ça n'a rien à voir avec les luttes sociales. Donc ce schéma-là, il est extrêmement intéressant, et c'est la gauche du gouvernement qui le pose, c'est pas l'extrême droite.
Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, Jurei ter pur companheira, grandola tua vontade, grandola tua vontade.
Jurei ter pur companheira, assombrando uma zinheira, que já não sabia a idade.
Radio Campus, 106,6.
Alors du coup, j'allais te poser la question des acteurs principaux de l'islamophobie. Si après on fait cette généalogie et on passe aux années 80, 90 et 2000, il y a un rôle spécifique des intellectuels, non ? Des intellectuels qui ne sont pas, en tout cas dans la mise en forme du discours islamophobe, d'intellectuels qui n'appartiennent pas à l'extrême droite.
Alors sur la structure du discours, merci de me poser la question parce que c'est très très intéressant. Alors la structure du discours islamophobe a peu évolué. Elle a très peu évolué, en fait. On a toujours eu une extrême droite qui attaque l'islam de front et des formes d'islamophobie qu'on retrouve plus à gauche qui ne s'en prend pas à l'islam de front, de manière générale. Hein, même si ça craque ces derniers temps, on a des personnes qui sont du Parti Socialiste, qui étaient à des responsabilités, qui ont affirmé qu'il y avait un problème avec l'islam. Voilà. L'islam pris comme une essence, comme une entité homogène. Mais là, on a deux types de discours. On a des discours qui s'en prend de front à la présence musulmane et qui la nomment comme telle, la lutte contre l'islamisation, contre le grand remplacement, contre l'opposition et l'incompatibilité entre l'islam et République, entre l'islam et la France, entre l'islam et la nation, etc. Et puis on a un discours qu'on retrouve plus dans des partis dits républicains, de droite comme de gauche, même si tout ça a bougé ces dernières années, qui sont non pas dans le rejet de l'islam et qui ne désignent pas l'islam comme ennemi, mais l'islamisme comme ennemi. Et donc là, il y a un petit jeu rhétorique qui est assez intéressant et qui permet, par analogie, de parler de l'islam sans en parler directement, en passant par le recours et la référence à la question de l'islamisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamisme ou de mouvement ou de groupe ou de projet islamiste en France. Il y en a des formes violentes qui se sont exprimées ces derniers temps. Il y a des formes beaucoup plus organisées. Et je pense que les sciences humaines doivent traiter, et le font d'ailleurs très très bien, la présence et la question islamiste en France. J'ai un certain nombre de collègues qui le font et très très bien. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que finalement la construction du problème musulman va emprunter deux types de discours, un qui va s'en prendre directement de front à l'islam et d'autres qui vont affirmer qu'au fond, l'ennemi, ce n'est pas l'islam, mais c'est l'islamisme. Mais quand on regarde qu'est-ce qui est désigné, c'est ça qui est important. Quand on regarde qui les uns et les autres désignent, ils désignent à peu près les mêmes personnes. Voilà, c'est la femme voilée. Et aujourd'hui, dans une bonne partie de la gauche, le port du foulard, par exemple, est désigné comme un instrument de l'islam politique. Alors que pour les personnes qui choisissent de le porter, le port du foulard, c'est une prescription, c'est vécu et c'est interprété comme une prescription religieuse auquel des femmes vont se soumettre et d'autres non. Bon. Et donc là, juste ce glissement qui a fait passer un port de signes religieux comme un instrument de conquête islamiste, juste ce passage-là qui est partagé de l'extrême droite à une partie de la gauche, mais c'est juste énorme, en fait, d'un point de vue politique, dans le sens de levier de légitimation et de massification de l'idée et d'amplification d'une menace, de l'idée d'ennemi intérieur. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé dans l'usine, c'est qu'on désigne les personnes, on montre leurs signes. Et au fur et à mesure, hein, par capillarité, toutes les formes d'islamité visibles dans l'espace public, elles sont associées d'une manière ou d'une autre, ces dernières années, à cette question de la présence d'un ennemi commun, d'un ennemi de l'intérieur qui tisse sa toile, mais qu'il est possible de repérer. On voit très bien comment les choses sont passées du foulard à la boucherie, de la boucherie à l'imam qui a des propos qu'on va juger un peu sortant du cadre, même si c'est des propos religieux, pour le coup, tout de suite, ça prend une dimension politique.
Aux nounous voilées ou aux mamans.
Aux nounous voilées, aux mamans qui accompagnent. Bref, les choses se font comme ça, progressivement, où il y a l'extension. On a une extension progressive de la désignation et d'un ennemi de l'intérieur. Et ce qui est nouveau, c'est que l'ennemi de l'intérieur, il n'est pas seulement désigné de manière abstraite, il est désigné de manière concrète. Alors, pour les citoyens qui adhèrent à ce type de discours-là, il y a rapidement une espèce de sentiment d'envahissement qui se met en place et qui les rend très sensibles à tout discours qui propose de lutter contre l'envahissement, contre le remplacement, etc. Et moi, je pars de l'hypothèse, et l'hypothèse que je défends, que l'extrême droite n'est pas à la source, mais bénéficie de cette construction de l'islam comme problème depuis le début des années 80. C'est en ça qu'en tout cas dans le contexte français, on a d'autres contextes européens où finalement, quand on parle d'islamophobie, le champ du discours islamophobe est assez restreint et associé à l'extrême droite ou aux droites nationalistes. Dans le contexte français, ce n'est pas le cas. On peut avoir des gens qui sont à l'extrême gauche et qui pensent sincèrement que derrière chaque foulard, il y a une Ariane Sen islamiste qui a un projet pour ce pays.
Oui, et puis par rapport à l'Italie, où il y a eu des livres islamophobes, notamment de Oriana Fallaci, qui se sont vendus à un très grand nombre d'exemplaires, ou à l'Allemagne, où il y a eu des manifestations islamophobes de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui n'a pas été le cas à ce stade en France. C'est vrai que ce qu'on pourrait noter, c'est qu'en France, l'islamophobie est davantage institutionnalisée à travers une série de dispositions légales.
D'un point de vue juridique, la France est assez unique. C'est le pays qui va le plus loin dans toute une série de restrictions des libertés individuelles qui visent les personnes qui sont considérées, qui sont des musulmans visibles. Voilà, des musulmans visibles. C'est une espèce de laboratoire juridique de l'islamophobie institutionnalisée. Et tout ce qui peut être voté dans d'autres pays démocratiques est inspiré et prend son inspiration de ce qui peut se passer en France. Et il faut savoir que là, si on fait le point un peu depuis la loi de 2004, qui est une loi charnière, qui est une loi de rupture.
La loi du 15 mars 2004, donc sur les signes religieux dits ostensibles à l'école.
C'est ça, la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans l'établissement primaire et secondaire, dans l'établissement public primaire et secondaire. En fait, pourquoi c'est une loi charnière ? C'est que c'est une loi qui rompt avec la philosophie libérale et égalitaire de la loi du 9 décembre 1905. Elles rompt de deux manières extrêmement importantes. D'abord, c'est une rupture d'égalité, parce que c'est une loi, contrairement à son énoncé, qui vise une minorité en particulier. Et deuxièmement, le plus important là, c'est une loi qui, finalement, valide l'extension du devoir de neutralité aux usagers des services publics, alors que pour la loi de 1905, pour les législateurs, la question de la neutralité se posait et s'imposait d'abord et avant tout aux agents publics et aux institutions publiques. Et ça, c'est une rupture majeure, parce qu'elle ouvre la porte, par voie de jurisprudence, qu'elle soit nationale ou européenne, par la multiplication de textes, elle légitime tout ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire l'extension progressive du devoir de neutralité religieuse, notamment dans des espaces qui n'ont jamais été concernés et pour des personnes qui n'ont jamais été concernées par la loi de 1905. Et ça provoque très peu de réactions. Très souvent, à part quelques organisations de la gauche radicale et une poignée d'organisations des droits de l'homme, il n'y a pas beaucoup de soutien. Même s'il faut rappeler, c'est important, que la plupart des initiatives législatives de restriction de ces libertés sont de l'initiative de la droite. Quand on regarde un petit peu l'histoire de ces textes-là, c'est souvent la droite, et quasiment que la droite républicaine, les Républicains, UMP, qui sont à l'initiative, mais qui ont trouvé, au moins dans le discours et parfois dans l'hémicycle, des alliés à gauche. Voilà. Et ça, cette transversalité politique de l'islamophobie, c'est quelque chose qui est assez spécifique, en tout cas dans son intensité, dans son intensité au contexte français.
Si je te suis bien et si je résume, donc les débats autour de la laïcité et surtout le passage d'une laïcité à une autre, en quelque sorte. Hein, d'ailleurs, François Baroin, qui était ministre à l'époque, avait fait un rapport appelant à une nouvelle laïcité à l'époque, en 2003-2004. Et le grand historien de la laïcité ou des laïcités, d'ailleurs, on pourrait dire, qui est Jean Bobéro, a parlé, c'est le titre d'un de ses livres, de laïcité falsifiée, hein, de falsification de la laïcité de 1905. En tout cas, bon, il y a clairement un tournant majeur dans la conception de la laïcité. Alors, effectivement, en opposition, a été construit en quelque sorte le problème musulman, ou les musulmans en opposition à la laïcité, ou ne souhaitant pas respecter la laïcité, etc. On pourrait peut-être évoquer deux autres leviers ou vecteurs de l'islamophobie, qui ont été tout le discours autour du communautarisme, et peut-être un autre vecteur qui est autour de l'antisémitisme, justement, les musulmans et musulmanes comme porteuses de la nouvelle judéophobie, pour reprendre l'expression de Pierre-André Taguieff. Est-ce que ça a effectivement, selon toi, participé, là encore, de la démonisation, en quelque sorte, de l'islam et des musulmans dans la société française ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, la difficulté avec ce sujet-là, c'est de pouvoir distinguer la question réelle de l'antisémitisme qu'on peut retrouver parmi des populations musulmanes. C'est une réalité qu'il faut pas mettre de côté et qu'il faut prendre en compte, de la même manière que on peut retrouver des formes de racisme, d'arabophobie, d'islamophobie dans les populations, au sein de la minorité juive ou d'autres minorités, même si c'est un sujet qui intéresse un petit peu moins. Mais bien sûr que dans certains groupes minoritaires, on retrouve des formes de racisme qu'on peut retrouver ailleurs et qui ont pu être exacerbées. Là, si je parle de cette mise en miroir qui a pu être exacerbée par la situation en Palestine, dans le conflit, en tout cas le conflit dans la situation coloniale, c'est pas un conflit symétrique, dans la situation coloniale et de domination coloniale qui caractérise les relations entre la Palestine et Israël. Donc on a cette situation-là, et ça a pu se manifester, soit de manière extrêmement violente et terrible, comme Mohamed Merah au Zaratora, ou ce qu'a subi Ilan Halimi de la part d'un groupe de jeunes dont certains se revendiquaient de leur religion, de l'islam, etc. Donc il ne faut pas mettre cet enjeu de côté. Et effectivement, ça a été utilisé par Pierre-André Taguieff, mais par d'autres acteurs publics. Ça a été utilisé comme moyen de démonisation de la présence musulmane. Mais en fait, tout ce qui peut être utilisé et opposable à la présence musulmane va être utilisé. Que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit la question des libertés individuelles, que ce soit la question de la tolérance, la question de l'antisémitisme ou d'autres formes de racisme, que ce soit la question de la délinquance. Je veux dire, tout est opposable. Dès lors qu'un discours raciste a besoin de s'alimenter, de se renouveler, d'innover. Et là, dans l'actualité, il y aura toujours quelque chose qui pourrait être raccroché à la présence musulmane, à l'essence même de leur religion, et trouver des relais dans l'espace médiatique. Donc, je pense qu'il faut, distinguer, à mon avis, justement, la construction du problème musulman et sur quoi il repose, comme les thématiques de l'antisémitisme, du communautarisme, du séparatisme. D'ailleurs, il faut noter et remarquer la capacité d'innovation conceptuelle, sémantique, de toutes les personnes qui ont besoin du problème musulman juste pour vivre personnellement dans l'espace public. Hein, c'est une question existentialiste pour beaucoup d'acteurs publics, d'experts, d'intellectuels, d'essayistes. Je veux dire, si vous leur enlevez la présence musulmane ou le problème musulman, de quoi ils vont parler, ces gens-là? Et je pense que, on le dit ça en souriant, mais je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire des gens qui ont fait une carrière publique sur le dos de la présence musulmane et des musulmans, et que s'ils n'ont pas ça, ça va devenir des petits commentateurs lambda dont l'opinion intéresse peu, parce que c'est généralement des acteurs assez médiocres intellectuellement. Maintenant, je reviens à la question à cette question de l'articulation entre antisémitisme et islamophobie. Moi, je pense que je la verrai d'une autre manière, qui est peut-être plus intéressante. C'est en quoi et comment ces deux phénomènes sont imbriqués, et que les populations que ces phénomènes désignent sont intimement liées dans l'histoire de ce pays. Contrairement à ce que peuvent penser beaucoup d'interlocuteurs, ou un Éric Zemmour ou d'autres, les choses sont ensemble. Je vais faire un petit pas de côté et parler d'une manifestation à laquelle j'ai participé avec un certain nombre de mes amis à New York. Il y a eu une manifestation monstre contre l'antisémitisme entre Manhattan et Brooklyn, après la multiplication d'actes de violences qui ont ciblé des écoles, ou en tout cas des personnes juives et visibles. C'est essentiellement la communauté hassidique ou Lubavitch. Bon. Et donc, il y a eu Pittsburgh, où un suprémaciste blanc était parti tirer dans une synagogue. Et finalement, aux États-Unis, il y a une espèce de recrudescence de l'antisémitisme violent, pas caché, violent, terroriste, et ce qui a alimenté beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions. Notamment, un point qui a intéressé et qui a alimenté un débat, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette recrudescence maintenant, alors que ça ne s'accompagne pas, ça n'est pas précédé par une explosion des discours de rejet contre les Juifs. Et mon hypothèse, c'est l'hypothèse partagée par un certain nombre de collègues ou d'intellectuels juifs libéraux aux États-Unis, c'est de dire c'est juste que l'explosion de cet antisémitisme est le résultat de la libération et la légitimation d'autres formes de paroles racistes, ce qui fait que c'est comme en France, j'ai envie de faire le parallèle. L'islamophobie, c'est une locomotive. Voilà. Là, l'islamophobie, c'est une locomotive, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tant que la plupart des personnes sensibles à la question du fascisme et de l'antifascisme, ou sensibles à la question du maintien de l'état de droit ou de la paix civile, ne considèrent pas l'islamophobie comme l'une des principales locomotives de montée de l'intolérance, de la haine, du rejet de l'autre, de la déshumanisation de l'autre, ils ne comprendront pas véritablement le rôle de l'islamophobie dans l'émergence d'un climat pré-fasciste ou fasciste, mais également les conséquences prévisibles qu'on commence déjà à voir poindre contre d'autres groupes minoritaires qui pourraient penser qu'ils ne sont pas la cible de ces mouvements pré-fascistes, de ces idéologies fascistes et de ces passages à l'acte, alors que dès lors que le fascisme s'installe, il est beaucoup moins sélectif dans ses cibles. Le terroriste qui a commis un acte terroriste dans la synagogue de Pittsburgh se réfère de la théorie du grand remplacement. Une théorie du grand remplacement qui ne prend pas pour cible centrale les populations juives ou latinos. Alors qu'à El Paso, pareil, il y a eu une tuerie dans un supermarché fréquenté par, c'est le Walmart, mais dans un quartier fréquenté par les populations latinos. Il a tué plusieurs latino-américains au nom de la lutte contre le grand remplacement. C'est-à-dire que l'idéologie du grand remplacement construite pour s'opposer, pour viser les migrants, les réfugiés, en tout cas les personnes qui viennent d'Afrique, essentiellement, notamment des personnes musulmanes, aient utilisé cette idéologie, celle qu'a développée un Renaud Camus qu'on invite encore cette année sur des plateaux télévision. Cette idéologie-là sert aussi de carburant d'une haine et d'une violence qui vise d'autres minorités.
Et on parle beaucoup dans le contexte, évidemment, d'Éric Zemmour. On l'a évoqué là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une singularité de l'islamophobie d'Éric Zemmour ou est-ce que, simplement, il radicalise toute une série de tropes, de discours antisémites, d'ailleurs, aussi, en partie, et peut-être surtout islamophobes, puisque l'islam et les musulmans sont au cœur de la plupart de ses livres. Comment tu vois les choses de ce point de vue-là?
Zemmour, d'abord, c'est un personnage de surenchère, qui existe par la surenchère, et qui se démarque par la surenchère. Et donc forcément, si vous avez encore des personnes qui font un petit peu attention, là j'ai vu que Marion Maréchal Le Pen avait dit hier, il ne faut pas mélanger l'islam et l'islamisme pour exprimer sa gêne vis-à-vis de certains propos de Zemmour. Donc on regarde, c'est quand même révélateur de voir où on en est. Je ne parle pas de la sortie de Robert Ménard là, et de ses regrets télévisuels par rapport à ce qu'il avait pu dire sur les réfugiés du Sud, les réfugiés non-blancs. Mais là, chez Zemmour, il y a cette croyance fondamentale à ce qu'il raconte. Il le pense, il pense ce qu'il dit, qu'il pense qu'il est investi d'une espèce de mission politique, qu'il y a des choses qui relèvent également dans son histoire personnelle et de sa construction psychique qui se joue. Ça me semble évident quand tu regardes l'histoire de sa famille. Mais surtout, c'est un discours qui ne s'embarrasse pas. C'est un discours qui ne s'embarrasse pas de formes atténuant le cœur du propos. Et son cœur du propos, c'est, il le dit très très bien, une incompatibilité quasi biologique il n'utilise pas le terme. Il parle de culturel, de civilisationnel, mais en fait, la notion de civilisation, pour lui, c'est la notion de biologie ou de race à la fin du 19e siècle. Bon, c'est tout. Donc moi, j'ai pas beaucoup de... C'est pas un discours qui me surprend en tant que tel. C'est juste une autre manière de baliser l'enjeu et de dire de manière explicite ce qui est latent. Voilà. Et il veut capitaliser sur l'explicitation de quelque chose de latent et qui a été construit depuis le début des années 80, peut-être un petit peu avant, dans l'idée que l'islam pose problème. Voilà.
Ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Eh ben voyons.
Alors,
Radio Campus.
Il faut dire non, 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 toujours non. Même quand il faut dire oui, il faut dire non.
106,6.
Il est souvent posé par ses détracteurs du centre droit ou de la droite comme un extrémiste, alors qu'il est manifestement en continuité avec toute une série de lieux communs qui ont été diffusés dans le débat public au cours des 20 ou 30 ou 40 dernières années. On peut se souvenir, on l'a presque oublié maintenant, mais Jean-François Copé faisait des discours sur les pains au chocolat volés par des enfants ou des adolescents musulmans à des enfants non musulmans pendant le ramadan parce qu'il ne faut pas manger, etc. Bon, entre mille exemples, Zemmour est diabolisé en quelque sorte en miroir blanchir ou dédouaner les forces politiques mainstream quoi, de leur responsabilité dans la diffusion de l'islamophobie.
On peut dire ça, sauf que le cas Zemmour, pas dans son discours. Moi, je dis dans son discours, il relève de l'explicite. Voilà, c'est le passage de l'implicite à l'explicite. Et c'est le passage de la désignation d'un problème à la proposition de solution. Voilà. et des solutions qui sont globalement cohérentes avec l'établissement du problème. Et c'est en ça qu'il se démarque des autres. Et c'est en ça où il met à l'aise, où il est dans une dynamique de surenchère. Je ne fais que le même constat que vous, avec des termes peut-être un peu plus clairs. Par contre, j'apporte la solution qu'il faut, la solution cohérente, la solution pragmatique à ce problème-là. Ça vient de là, sa force aussi. Hein, ce n'est pas seulement d'alimenter un racisme latent, d'être dans l'ambiguïté, de jouer sur l'ambiguïté islam, islamisme, etc. C'est de dire, non, il y a un réel problème et voilà comment on va le solutionner. Pour ceux qui pensent et qui adhèrent au fait qu'il y a un problème, bah, c'est attractif. Et de ce point de vue-là, Marine Le Pen, pareil, moi... Et ça, c'est le deuxième effet Zemmour, c'est de contribuer à recentrer l'opérateur historique de l'extrême droite française depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point intéressant. Moi, j'ajouterai un troisième point. Je ne sais pas comment l'analyser concrètement. Je ne sais pas quels sont ses effets sur les perceptions, mais que le discours le plus radical, le plus anti-musulman, le plus violent à l'égard des minorités, pas seulement musulmanes, soit porté par quelqu'un qui revendique sa judéité, ça met mal à l'aise, pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, beaucoup d'intellectuels, de personnalités juives, etc., qui se retrouvent finalement avec une figure française juive qui alimente un discours de haine, mais qui en plus réhabilite Pétain, le régime de Vichy, qu'il déteste. Donc ça remet beaucoup mal à l'aise, pas seulement les personnes juives, ça met mal à l'aise beaucoup de monde. Mais eux, dès lors que Éric Zemmour revendique sa judéité, ça pose un enjeu particulier pour une partie d'entre eux en tout cas. Mais la question que je me pose, c'est pour les cibles de Zemmour, qu'est-ce que ça implique la judéité de Zemmour dans la construction de leur perception, le rapport aux élites, le rapport à leur positionnement et finalement le rapport à d'autres groupes minoritaires, etc. Ça, c'est... j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse et qui me semble pas sans effet. Voilà. Pour entendre, pour l'instant, c'est pas une étude, mais des bribes de discussion à droite, à gauche, c'est quand même quelque chose qui revient. Voilà, c'est quand même quelque chose qui revient sous différentes formes. La première, c'est comment il se permet, après ce qu'ils ont vécu. Enfin, il y a ces termes-là que je reviens souvent. Mais aussi, ça peut prendre des formes plus dures en disant « nous, on nous traite d'antisémites, mais eux ». Et par le « eux », il y a une espèce de généralisation à partir du cas Zemmour d'une position qui serait celle de la position d'une communauté. Ce qui est dangereux, dont les effets peuvent être des effets délétères sur le long terme. Donc, la question est ouverte, elle mérite d'être creusée. C'est pour ça que la question de Zemmour, c'est pas seulement le contenu du discours, c'est pas seulement la forme du discours, le positionnement politique ou électoral, c'est également ses conséquences pour les mois, les années à venir, sur les relations sociales, les perceptions, la construction du rapport à la société des cibles de Zemmour.
Alors, pour sortir un peu du cas Zemmour et commencer à aller vers une conclusion, dans un texte que tu m'avais transmis, mais que tu n'as pas encore publié, il me semble, tu parlais des théoriciens du petit remplacement. J'avais bien aimé la formule. Alors, c'est qui ces théoriciens, globalement, et quelle position ils occupent, quel est leur rôle? Bon, et c'est, surtout, c'est quoi ce petit remplacement dont tu parles dans ce texte? Alors, c'est un peu mystérieux parce que le texte, je crois, n'est pas public ou n'est pas encore été publié, mais voilà, c'est quoi ce petit remplacement?
J'ai juste pris la question du remplacement. Voilà, la thèse et le thème du remplacement, il est associé à la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement, on connaît bien la théorie, ça a été vulgarisé. Au fond, c'est pas une théorie, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui part du principe, qui postule que les populations du Sud, immigrés et descendants d'immigrés, il y a l'organisation de leur arrivée sur le territoire européen, notamment en France, avec pour finalité de remplacer la population la population historique, c'est-à-dire la population blanche, pour aller très très vite, judéo-chrétienne, enfin les désignations évoluent, hein, selon les locuteurs, Et l'idée, c'est, comme c'est dit, qu'il y ait une substitution d'une population par rapport à une autre. Donc, ça repose sur la thèse de l'invasion démographique, de la submersion culturelle, et que ça se manifesterait par toute une série de faits sociaux qui vont de la délinquance à la criminalité, qui est associée à la présence des populations non blanches, jusqu'à l'intégrisme religieux, etc. Bon, ou l'échec scolaire, enfin... Tous les problèmes de la France sont associés à la présence des minorités non blanches, notamment qui viennent du sud, du continent africain, et le fait qu'elles soient associées à ces populations-là veut dire que la solution, c'est quand même de s'en débarrasser pour régler tous les problèmes de la France. Mais la dialectique du remplacement m'intéresse. C'est la dialectique du remplacement, cette idée de remplacement, parce que cette dialectique du remplacement, on le retrouve pas seulement dans les discours d'extrême droite du grand remplacement. On retrouve la dialectique du remplacement dans beaucoup de discours qui traitent pas directement de la question de l'islam, mais qui touchent à la présence à la présence musulmane. Et par exemple, tout le discours de désignation du séparatisme, du communautarisme, de l'islamisme, et tous les néologismes qui sont utilisés reposent sur la dialectique du remplacement. Au fond, c'est pas l'islam qui veut s'imposer, c'est l'islamisme. C'est pas l'islamisme, qu'est-ce qu'il veut imposer ? Il veut imposer ses normes, ses valeurs. Contre quoi ? Non pas contre la nation, mais contre la République, contre l'école. Donc c'est beaucoup plus situé, au fond, les offensives de l'islamisme et les tentatives de l'islamisme de remplacer les valeurs de la République par les valeurs de l'islam politique, par les normes islamistes, etc. Et donc on retrouve cette même dialectique du remplacement, non pas dans les discours d'extrême droite, mais dans les discours extrêmement mainstream, qu'on retrouve également à gauche, cette espèce de croyance qu'il y a une arrière-scène islamiste qui veut coloniser des lieux pour s'imposer à la population de ces lieux. Et c'est en ça que j'ai voulu distinguer les théoriciens du grand remplacement. C'est l'islam contre la nation, et les théoriciens du petit remplacement, comme les appelés, c'est l'islamisme contre la République, ses institutions, l'espace public. Parce que ces deux mouvements-là, qui ne sont pas portés forcément par les mêmes personnes, permettent de légitimer l'idée de remplacement, de légitimer l'idée d'offensive, de légitimer l'idée d'une arrière-scène qui veut s'en prendre à tout le monde, de légitimer du coup l'idée de conquête, de légitimer la nécessité de se défendre, et y compris la nécessité de se défendre en faisant des pas de côté des libertés individuelles, un pas de côté dans l'usage de la force ou dans le droit des migrations, enfin bref, toutes les mesures qu'on observe ces derniers temps. Et finalement, on peut interpréter l'évolution et les lois qui ont été votées par le gouvernement Macron, notamment, contre la loi séparatisme, l'usage de dissolution, comme les réponses légitimes à ces offensives. Et là, en fait, avec le gouvernement Macron, Darmanin, etc., on atteint des niveaux de mise en pratique et de mise en œuvre de la réponse à cette présumée offensive, on atteint un niveau jamais atteint jusqu'à maintenant, pour le coup. Et je pense notamment aux dissolutions. Je pense aux dissolutions du CRI, aux dissolutions du CCIF, sur des motifs qui sont des motifs assez hallucinants pour n'importe quel défenseur des libertés publiques. C'est-à-dire qu'une organisation qui critique le fait que l'islamophobie soit institutionnalisée, ça relève à minima de la liberté d'expression. Et si c'est hors la loi, si c'est illégal, dans un état de droit, on judiciarise. Donc il y a des possibilités de s'opposer à des pratiques qui sont des pratiques non conformes d'une organisation, quelle qu'elle soit, sans passer par la solution extrêmement radicale de la dissolution. Donc là, il y a une porte qui s'est ouverte, un nouveau chapitre qui s'est ouvert, qui relève de la fascisation. Parce que là, pour le coup, on passe au-delà du judiciaire, on s'assoit sur l'état de droit pour décider en Conseil des ministres quelle organisation a le droit de vivre et qui n'a pas le droit. Et il ne faut pas attendre beaucoup. C'est un fait. Il ne faut pas attendre beaucoup du Conseil d'État. Ça, c'est beaucoup de juristes qui me le disent. Il ne faut pas attendre beaucoup du Conseil d'État pour défendre les libertés publiques et les libertés individuelles dans le contexte qui est le nôtre. il faudrait faire la sociologie du Conseil d'État, de son fonctionnement, de sa composition et de la manière dont sont traitées ses affaires, et puis de ses décisions, de l'élaboration de sa jurisprudence pour essayer de comprendre comment tout ça est possible. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un pilier à l'autre. Et donc l'idée de petit remplacement, c'était aussi pour pointer, ce sera ma conclusion, mais pour pointer ce que Reza, Zia et Brahimi appellent les formes de racialisation conspiratoire. C'est un concept qu'il utilise pour parler d'une forme de racialisation qui a ciblé les populations juives et qui continue à cibler les populations juives et qui cible de la même manière les populations musulmanes. Ce concept-là, il permet aussi de penser ces dynamiques, cette dialectique du remplacement, que ce soit le petit remplacement très mainstream, cette idéologie-là, ou le grand remplacement plus ancré dans l'extrême droite. L'idée de remplacement repose sur l'idée de conspiration. Les deux. Et en fait, cette idée de conspiration islamiste, comme il y a eu des idées de conspiration judéo-bolchévique, islamo-gauchiste, enfin bref, c'est tout à fait fondamental pour saisir ce qui intéresse et ce qui t'intéresse particulièrement, c'est-à-dire le néo-fascisme et ses modalités concrètes, rhétoriques, idéologiques, institutionnelles. Et là, ce qui me frappe quand même, c'est le fait que c'est compliqué d'opposer les idéologues du petit ou du grand remplacement parce qu'ils circulent un peu dans les mêmes espaces. Voilà. Et je prends pour illustrer, moi, cette idée de petit remplacement et son articulation avec la question du grand remplacement. Je prends l'exemple de cette femme, cette mère de famille qui a accompagné son fils au conseil régional de Bourgogne il y a quelques années. C'est intéressant parce qu'on a une mère de famille qui est en plein déménagement. Ça, c'est Libé qui a fait une enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'elle était là, finalement. Qui est en plein déménagement, qui ne peut pas venir à cette sortie scolaire, qui doit garder sa fille. Et on a son enseignante qui lui demande, parce qu'elle accepte souvent de rendre service, d'accompagner les enfants, notamment son fils, à cette sortie scolaire, parce que sinon, la sortie ne pourra pas avoir lieu puisqu'il n'y a pas suffisamment de chaperon. Elle accepte, c'est-à-dire qu'elle fait garder sa fille, elle met de côté son déménagement, donc elle sacrifie ses activités pour accompagner cette classe, et elle est humiliée dans l'enceinte du conseil régional par Julien Odoul, qui est élu du Rassemblement national, et puis devant son fils, devant les autres élèves, on a cette image où elle réconforte son fils qui pleure, une extrême violence pour elle. Et donc, le Front National, Rassemblement National, se justifie en disant c'est une militante islamiste. Voilà, le voile, donc militante islamiste. Et c'est une thèse qu'on voit reprendre dans beaucoup de médias, sur les plateaux télé. C'est de surenchère en surenchère. Il y a des dizaines et des dizaines de débats, plus de 80 en quelques jours, zéro femme qui porte un foulard. Notamment, cette femme-là, elle n'est pas appelée à... Elle n'est pas invitée à témoigner pour donner son point de vue. Par contre, les militants du Rassemblement national, ils ont micro ouvert un petit peu partout. Et puis, juste après ça, on a Emmanuel Macron, président de la République, qui accepte de répondre à une invitation à un magazine d'extrême droite, Valeurs Actuelles. Donc, juste ça, ça fait événement. C'est-à-dire, on a Valeurs Actuelles, c'est un magazine d'extrême droite qui est légitimé par le président de la République et qui donne une longue interview où il revient sur cet incident et où il dit qu'au fond, Julien Odoul, l'élu du Front National, s'est un peu fait avoir parce que cette femme est plus proche des milieux de l'islam politique qu'on ne pourrait croire. Donc il valide la thèse de la manipulation islamiste, il valide l'idée que un foulard, c'est forcément une Ariensen masculine islamiste derrière qui a la manœuvre, il valide l'idée qu'il y ait une espèce de conspiration où il n'y a pas un seul lieu qui soit laissé de côté par ce réseau qui voudrait s'en prendre à la France, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, et on voit qu'il n'y a pas de distinction finalement, ni dans le discours, dans la rhétorique, ni dans les espaces où les acteurs s'expriment, entre la droite dite républicaine, le chef du gouvernement, enfin là, c'est le chef de l'État, et des journaux d'extrême droite. Bon, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, et c'est un fait qu'il est important de prendre en compte et qui révèle, à mon avis, juste qui nous offre une bonne photographie de là où on en est aujourd'hui, par une série de renoncements, par une série d'abandons, mais surtout par les nombreuses divisions
qui sont longues à expliquer et qui traversent beaucoup d'organisations de gauche, de défense des droits de l'homme, des organisations syndicales, en tout cas des forces collectives de la société qui, traditionnellement, historiquement, se sont retrouvées en pointe dans le langage antifasciste, dans la lutte antiraciste, dans les luttes sociales. Et ça, s'il y a bien un effet majeur de la présence musulmane ces dernières années, en tout cas des débats qui entourent la présence musulmane, c'est d'avoir fait quand même, d'avoir alimenté ou révélé des divisions qui ont fait imploser je ne sais pas combien d'organisations. Une organisation dont on ne parle plus, c'est le MRAP, par exemple. Le MRAP, c'est une organisation historique. Le MRAP n'a pas survécu à ces dissensions. La LDH s'est affaiblie.
Alors, il y avait quand même eu la manifestation du 10 novembre 2019, d'ailleurs en partie une réponse à un attentat d'extrême droite à Bayonne, mais aussi d'ailleurs à l'humiliation par Odoul de cette maman qui portait un foulard, mais où était présente dans cette manifestation l'essentiel de la gauche sociale et politique, dont la CGT, ce qui était là assez nouveau, et puis la plupart des partis de gauche. D'une certaine manière, l'offensive qui a suivi est en partie une réponse à ce front qui, pour une fois, rassemblait à la fois des milliers de musulmans et de musulmanes, mais aussi l'essentiel de la gauche sociale et politique, non ?
Oui, c'est absolument remarquable. Après, ce n'était pas tant par rapport à l'affaire de cette mère de famille en Bourgogne, mais c'était la réaction à l'attentat de la mosquée de Bayonne. Clairement, pour la plupart des organisations de gauche, ça a été le point de bascule. Et effectivement, cette manifestation-là est un tournant à deux niveaux. Il me semble que c'est une manifestation qui, pour beaucoup de mouvements et d'idéologues conservateurs, a représenté une espèce de crainte, en tout cas qui a confirmé une espèce de crainte qui serait celle de l'alliance des parias et des organisations, des syndicats de gauche, donc une espèce de force politique qui a du mal à se mettre en place, qui est contrariée historiquement, mais qui là, pour le coup, apparaît telle qu'elle. Et donc, on a eu une espèce de backlash politique, un retour de bâton terrible. Et puis, on a vu au fur et à mesure un certain nombre de participants à la manifestation, sous la pression des attaques, se désolidariser, mettre à distance. Il en restait très peu, finalement, en termes d'organisation, en termes de personnalité, pour dire non, j'assume totalement d'avoir participé. Ce qui a pu s'exprimer lors de cette manifestation avec lesquelles on est en désaccord, ça existe, on est en désaccord, mais on ne regrette pas d'avoir manifesté. Mais effectivement, c'était un moment qui était important. Mais le résultat de ça, un des résultats de ça, c'est les dissolutions dont on parle.
Et du coup, comment tu vois la suite ? Parce que ça peut avoir un caractère un peu désespérant, tout ce qu'on s'est dit pendant une heure, là. On pourrait se dire que d'un point de vue générationnel, les choses sont moins difficiles chez les jeunes, en tout cas sur les relations, en tout cas la manière dont ils conçoivent ou perçoivent la présence musulmane, ça d'après une série d'enquêtes par sondage, disons. Mais en même temps, les moyens qu'ont les musulmans et les musulmanes de se défendre sont en train d'être attaqués de manière très brutale par les gouvernements. Est-ce qu'on peut espérer que la lutte contre l'islamophobie parvienne à se déployer dans les années à venir ?
Difficile, on est dans un creux de la vague, mais je pense que les choses vont repartir à l'aide d'une nouvelle génération et peut-être avec des modalités un petit peu différentes. On voit déjà émerger. D'abord, la question n'a pas été complètement abandonnée par les organisations. On a un certain nombre d'organisations qui tiennent sur ces questions, y compris des organisations politiques de gauche, d'extrême gauche, qui restent fidèles à leur ligne dans la dénonciation de l'islamophobie, l'immobilisation. On a aussi des personnalités politiques qui, paradoxalement, qui mettaient ces questions-là à distance et qui s'en saisissent assez récemment. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, qui a un parcours sur ces questions-là qui est assez frappant, mais qui est significatif, parce qu'aujourd'hui, si on en croit les sondages d'intention de vote, c'est quand même la principale force de gauche. Et donc la principale force de gauche aujourd'hui, elle est portée par quelqu'un qui a participé à cette manifestation, mais qui dénonce l'islamophobie et qui l'assume. Et pour discuter beaucoup en ce moment avec des personnes avec des personnes de confession musulmane, quand je leur pose la question « Alors, comment tu vois les présidentielles ?» Si je dis que 95% des réponses, ce sera c'est Mélenchon. Et une des raisons qui revient souvent, c'est juste que, au moins, lui, il défend les musulmans. C'est la phrase typique que je peux entendre. Donc, il n'y a pas que ça comme argument. Hein. Les personnes que je rencontre ne se définissent pas que par rapport à la position de tel ou tel candidat sur la question de l'islamophobie. Il y a d'autres enjeux pour lesquels Mélenchon peut être en plus grande difficulté, hein, notamment les questions géopolitiques. Mais en tout cas, sur la question de l'islamophobie, il y a les deux parties qui reviennent le plus souvent. C'est la LFI et le NPA. En fait, pour ceux qui connaissent un peu le NPA, il y a moins de monde qui connaît le NPA. Donc, il y a une nouvelle génération, il y a des nouvelles formes de mobilisation. Je pense notamment au collectif Les Hijabeuses qui utilisent des stratégies de mobilisation, un répertoire d'action qui change en fait et qui situe leur lutte non pas sur la question du port du foulard de manière générale, mais dans le domaine très restrictif, très restreint de l'accès à la compétition sportive, au foot. Mais on sait très bien que c'est une question politique qu'elle pose. Ce n'est pas qu'une question liée à la pratique du foot. La pratique et l'accès aux loisirs est une question politique. Y compris dans les générations de militants plutôt à gauche, on a des personnes qui sont mieux formées, beaucoup plus ouvertes par rapport à ces questions-là, et qui, même dans leur socialisation, ont fréquenté davantage de musulmans et de musulmans pratiquants que les dirigeants d'organisations syndicales qui sont à la retraite ou qui s'en rapprochent. Bon. Donc ça, il y a un fait démographique et sociologique, beaucoup d'enquêtes ont documenté. Mais en même temps, on est quand même dans un contexte, notamment avec la loi contre le séparatisme et les dissolutions, et puis l'assassinat de Samuel Paty, qui ont des effets majeurs sur la prise de parole, notamment des organisations musulmanes, mais la prise de parole en tant que telle autour des questions d'islamophobie. Ce que dit la décision de dissolution, il est avancé l'idée que la dénonciation de l'islamophobie est une forme de légitimation des attaques racistes. C'est lourd, hein, mais c'est lourd, y compris en tant que chercheur, y compris en tant qu'intellectuel. Au fond, au nom de cet argument, on peut se retrouver peut-être pas dans une situation très compliquée dans le cadre de notre université ou dans le champ académique, mais dans le champ public ou dans le champ pénal, on pourrait très bien se retrouver mis en accusation ou attaqué comme étant des personnes qui sont complices du terrorisme ou qui le justifient. Donc c'est aussi ça le néofascisme. et ça commence, c'est pas que des personnes minoritaires, hein, c'est-à-dire que c'est toute parole critique, c'est tout espace de contestation, d'élaboration d'un discours, d'une analyse qui soit hétérodoxe, qui soit contraire à la doxa, en tout cas à la pensée d'État, c'est tout ça qui est menacé aujourd'hui et qui est révélé à travers la question de l'islamophobie.
Merci beaucoup Marwan Mohamed.
Merci à toi Hugo. T'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Les donneurs de leçons seront plutôt mal reçus. Les je sais tout plutôt malvenus. Pour les faux culs, l'entrée défendue. Comme ça on évitera tout malentendu. Pas de restart, ni gourou dans ma tribu. Dans ma secte y'a que des inconnus. Que des glandus, des bossus et des foutus. Des déglingos, des exclus, des mal conçus. Des incoups, qui j'tahais le pied nu. Des incoups, avec les cheveux crépus. Des rappeurs, qui kickent sur l'instru. Des révolutionnaires, obstinément têtus. Des cassos, comme t'en as jamais vu. Des types chelous, qui sortent de garde à vue. Du bruit et des odeurs, qui viennent de la rue. Et des slogans, de prolos, militants jamais vaincus. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Je sais, je suis un peu sectaire. Un peu rigide, oui, un petit peu méfaire. Pas très sociable, non, un peu réfractaire. Mais les gros cons, impossible de m'y faire. Impossible de séparer le politique de l'intime. Le facho n'aura jamais mon estime. Mes ennemis, je les éduque en combattant. Et en leur parlant gentiment à la mi-temps. Si toi, être civilisation supérieure. Et toi, voir moi sauver.
esclavage inférieur. Si toi être plus beau et toi tout savoir, si toi être lumière et moi petit barbare, si toi expliquez-moi, pas mettre le chat d'or, qu'il faut manger du porc et pas prier dehors. Si toi condescendant s'adresse à moi comme un clébard, moi donner à toi un coup dans la mâchoire.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
Dans ma secte, on a l'esprit critique. On déconstruit, on décortique au discours dominant. Ma clique est allergique si t'es contaminé. Mec, tu restes au portique, mais attention à toi. Message aux humanistes, si t'es à gauche avec l'esprit colonialiste. Si tu regardes le monde avec un œil paternaliste, mec, toi aussi tu seras rayé de ma liste. Ici la porte est fermée, au cerveau étriqué si tu la joues solo. Ayant tu m'envoies désolé dans ma secte. On la joue collective, altruiste. On est tous locomotives, solidaires. On pense pas qu'à sa bobine. Discipline d'un soldat moudjahidine. Et même comme ici sur un rythme ragamuffin. Dans ma secte, on crie ta chef à la skin.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. T'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
J'ai dit tu rentres pas.